Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le complot meurtrier contre Jésus. Aujourd'hui, nous avons la deuxième partie concernant un meurtre à Golgotha. La deuxième partie. Chers amis, dans la pensée juive, la crucifixion constitue une façon particulièrement affreuse de mourir. Elle équivaut à la pendaison à un arbre que Moïse a ainsi décrite. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. De plus, la loi mosaïque exige que toute exécution se fasse en dehors des murs de la ville, selon le livre des Nombres, chapitre 15, verset 35, et Hébreux, chapitre 13, verset 12. Les Romains ont, eux, une perception totalement différente des choses. C'est beaucoup, beaucoup plus terrible, en ce sens qu'ils choisissent toujours d'exécuter les condamnés le long d'une grande voie publique à titre de mise en garde pour les passants. Ainsi, la crucifixion de Jésus, elle a lieu hors de la ville, mais dans un endroit très passant que on a soigneusement choisi pour donner Jésus-Christ en spectacle à tout le monde. Le lieu de la crucifixion de Jésus s'appelle donc le calvaire. C'est un terme latin adapté du terme grec qui apparaît dans le texte biblique sous le mot cranion, crâne. Saint-Luc chapitre 23, verset 33. En araméen, on appelle ce lieu Golgotha. Cela signifie également crâne. L'Écriture sainte n'indique nulle part qu'il s'agit d'une colline, mais on présume en général qu'il s'agit d'un promontoire ou d'une pente ayant l'apparence d'un crâne. Or, il existe justement, en effet, un lieu de ce genre, c'est le calvaire de Gordon, qui est situé juste au nord des murailles de Jérusalem. On peut le voir encore aujourd'hui et discerner nettement la forme d'un crâne humain. Mais Saint Matthieu écrit, arrivé au lieu qui est nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils donnèrent à Jésus à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand Jésus l'avait goûté, il n'a pas voulu le boire. Saint Matthieu chapitre 27, versets 33 et 34. Il semble que juste avant de le crucifier, les soldats lui offrent cette boisson amère. Précisons que ce vin qui est mêlé de fiel est en fait une sorte de vinaigre. Le fiel est aigre au goût. Il s'agit de la myrrhe, selon Saint Marc chapitre 15, verset 23, soit donc une substance qui est une sorte de narcotique. Il se peut que les soldats le lui donnent pour l'anesthésier un peu avant de lui enfoncer les clous dans la chair. Mais en y goûtant, Jésus le recrache, car il ne souhaite pas se faire engourdir. Il est venu à la croix, et ceci pour porter les péchés du monde, et il entend ressentir tout le poids de ses péchés, et en subir ainsi pleinement la souffrance. Dieu le Père lui a donné une coupe à boire, plus amère que le fiel de la myrrhe, que Jésus boira sans stupéfiant. Il est encore parfaitement résolu à faire la volonté de Dieu son Père, et il refusera tout soulagement de ses douleurs avant d'achever son œuvre en entier. Le vinaigre et le fiel accomplissent d'ailleurs une prophétie messianique qui se trouve dans le psaume 69, versets 20 à 22, où il est dit « Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Le psaume 69, versets 20 et 22. Notons que les Romains ont emprunté aux Perses la crucifixion comme étant une méthode d'exécution. On la pratiquait également avant l'époque de l'Empire romain en Phénicie, en Carthage et même en Égypte. Mais c'est manifestement la Perse qui l'a inventée. Les Perses croyaient que la terre, le feu et l'eau étaient des éléments sacrés et que toutes les méthodes d'exécution habituelles souillaient ces éléments sacrés. Ils se sont donc venus à imaginer un moyen de crucifier les condamnés en les empalant sur un poteau, les élevant ainsi bien au-dessus du sol pour les y laisser mourir. Par la suite, les diverses cultures ont mis au point différentes méthodes de crucifixion, parmi lesquelles Rome en a adapté plusieurs. Ici, à l'époque de Jésus-Christ, la crucifixion est devenue la méthode d'exécution qu'on privilégie dans tout l'Empire romain, surtout en Judée, où on l'emploie fréquemment pour donner les émeutiers et les insurgés en exemple public. Selon Josephus, après la mort d'Hérode le Grand, le gouverneur romain de la Syrie, Quintilius Varus, fera crucifier carrément 2000 hommes, tout cela dans le but d'étouffer une insurrection. Josephus ajoute du reste que Titus fera crucifier tant de gens lorsqu'il mettra Jérusalem à sec dans les années 70 après Jésus-Christ, qu'il n'y restera plus de bois pour faire des croix, ni d'espace ou les planter. Et quand on songe que seulement du temps de Jésus-Christ, Rome aura déjà fait crucifier plus de 30 000 personnes en Judée et dans les environs, si bien qu'on voit alors couramment des croix portant des hommes morts ou qui sont à l'agonie autour de Jérusalem, en rappel constant de la terrible brutalité des Romains. Quant à la méthode exacte qu'on emploiera pour crucifier Jésus, aucun des évangiles ne la décrit en détail. Mais nous pouvons glaner beaucoup d'informations à partir des quelques détails qui y sont donnés, tels que la remarque que le disciple Thomas fera aux autres disciples après la crucifixion, quand il a dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous et que je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Saint Jean, chapitre 20, verset 25. Et Saint Jean nous révèle que Jésus-Christ se fera clouer à la croix plutôt que de s'y faire flageller à mort, comme on le fait parfois dans ce temps-là. D'après Saint Matthieu chapitre 27, verset 37, qui indique qu'on écrira la raison de sa condamnation au-dessus de sa tête. Nous pouvons aussi tirer des récits séculiers sur la crucifixion à l'époque de Jésus, et là il y a certains détails quant à la façon dont meurent tous ceux qui y sont condamnés. Pour sa part, Jésus-Christ se fait clouer à une croix qui est posée à plat sur le sol. On emploie de longs clous de fer effilés, semblable aux crampons d'attache des rails modernes, mais beaucoup, beaucoup plus pointus. On doit en transpercer les poignets et non pas seulement la paume des mains, car ni les tendons, ni l'ossature des mains ne peut supporter le poids du corps. Si on cloue les paumes, eh bien, les clous déchirent simplement la chair entre les os. Mais si on cloue les poignets, alors les clous fracassent habituellement les os du carpe et déchirent les ligaments carpiens, mais l'ossature du poignet, elle demeure néanmoins suffisamment forte pour supporter le poids du corps. En général, en s'enfonçant dans le poignet, le terrible clou va endommager gravement le nerf médian sensorimoteur, causant ainsi de très grandes douleurs dans les deux bras. Pour finir, on enfonce un seul clou au travers des deux pieds, parfois à travers les tendons d'Achille. Aucune des blessures causées par les clous n'est en général fatale. Mais les douleurs, par contre, qui y sont associées, ne font que s'intensifier et font accroître les heures d'agonie. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Une fois le condamné cloué, plusieurs soldats vont soulever le haut de la croix pour en faire soigneusement glisser le bras dans un trou. Non, excusez-moi. Pour en faire soigneusement glisser le bas dans un trou profond. Dans ce cas-là, on comprend que la croix va tomber, alors d'un seul coup sec, au fond de ce que j'ai dit, de ce trou. Transférant donc ainsi immédiatement tout le poids du crucifié au clou des mains et des pieds. Et croyez-moi, cette position entraîne une torsion douloureuse des os dans tout le corps, tandis que les jointures principales se disloquent carrément. C'est d'ailleurs probablement ce que Jésus-Christ a mentionné prophétiquement dans le psaume 22, verset 15, qui porte sur la crucifixion, où il est dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent ». Les Romains ont carrément peaufiné l'art de la crucifixion afin de maximiser la douleur qui en résulte. Et ils savent comment faire durer l'horreur sans permettre aux crucifiés de perdre connaissance, ce qui risquerait de le soulager temporairement de ses souffrances s'il pouvait perdre connaissance. Alors les crucifiés ont des hauts le cœur, font de la fièvre, éprouvent une soif ardente et ressentent continuellement des crampes et des élancements dans tout le corps. Rappelez-vous l'insomnie, la faim, la déshydratation et l'infection qui s'aggravent et met ainsi tout le corps et l'esprit et le corps du crucifié, dans un supplice qui se prolonge pendant environ 3 jours. Et au fil des heures, on peut dire s'intensifie ainsi le désespoir, l'opprobre public et le traumatisme toujours croissant qui est infligé au corps. Voici donc ce que on a écrit à ce sujet-là. La position inhabituelle rend chaque mouvement très douloureux. Les veines lacérées et les tendons écrasés entraînent des élancements horribles et incessants. Les plaies béates et enflammées se gangrènent carrément. Les artères, surtout de la tête et de l'estomac, enflent et se compriment en raison de la surcharge sanguine et à toutes les sortes de misères qui empirent progressivement, vient en plus s'ajouter cette soif ardente et intolérable qui brûle la gorge. Et toutes ces complications physiques engendrent carrément des fébrilités et des angoisses terribles qui donnent à la perspective de la mort en soi une souffrance indescriptible. On dit du reste que l'empereur Tibère privilégiait la crucifixion comme un mode de châtiment, précisément parce qu'elle prolongeait l'agonie du crucifié sans lui permettre de trouver un soulagement dans la mort. Il considérait ainsi la mort comme une échappatoire, donc pour lui, l'exécution ne constituait pas un châtiment, à moins qu'elle n'inflige au crucifié autant d'agonie que possible avant la mort. Le crucifié meurt donc normalement des suites d'une suffocation lente. Le corps pend de telle manière que le diaphragme se contracte dangereusement. Pour expier, le crucifié doit donc se remonter avec les pieds afin de permettre au diaphragme de se dilater. Or, l'épuisement, la douleur intense et l'atrophie musculaire ayant raison de lui, le crucifié finit par ne plus pouvoir se remonter ainsi et il meurt par manque d'oxygène. Voilà du reste comment un fameux médecin, Truman Davis, un médecin célèbre, qui s'est penché sur la question des effets physiques de cette terrible crucifixion, et il décrit le cas de Jésus ainsi. Écoutez bien. Tandis que les bras se fatiguent, de grandes vagues de crampes prennent les muscles d'assaut, les nouent par des douleurs profondes, lancinantes et impitoyables. À cause de ces crampes, le crucifié est incapable de se remonter. Pendu sur les bras, il a les muscles pectoraux paralysés et les muscles intercostaux neutralisés. Le crucifié peut inspirer, mais ne peut se vider les poumons. Alors Jésus lutte pour se remonter, afin de prendre ne serait-ce qu'une petite bouffée d'air. Ce sont donc des heures de souffrance continuelle, de crampes cycliques qui tordent et qui déforment les jointures, d'asphyxie partielle, intermittente, et des douleurs fulgurantes que occasionne le déchirement de la peau de son dos qui a été lacéré quand il se remonte et retombe contre le bois brut. Puis débute une autre agonie, une douleur profonde et écrasante saisit Jésus à la poitrine, tandis que le péricarde se remplit lentement de sérum et commence à se compresser, à compresser le cœur. Ainsi son agonie touche maintenant à sa fin. Son liquide tissulaire est rendu à un niveau critique. Son cœur comprimé lutte pour injecter du sang lourd, épais et visqueux dans les tissus. Ses poumons à la torture, s'efforce d'aspirer de petites bouffées d'air, et ses tissus manifestement déshydratés bombardent donc son cerveau de stimulus. Ainsi, une fois les jambes vidées de leur force ou de leur sensation, le crucifié n'arrive plus à se remonter pour respirer, ce qui engendre rapidement sa mort. Et voilà donc pourquoi les Romains pratiquent parfois la crucifracture, ça veut dire la cassure des jambes sous les genoux, pour hâter le processus. Notez Saint Jean, chapitre 19, verset 31. Il arrive également que la déshydratation, une hypovolémie ou une insuffisance cardiaque globale précipite ainsi la mort du crucifié. Dans le cas de Jésus, il semble qu'un épuisement total contribue probablement beaucoup à l'accélération de ce terrible processus. Mis à part la souffrance physique associée à la crucifixion. L'aspect le plus frappant de ce type d'exécution est le stigmate de disgrâce qui l'accompagne. Les crucifiés se font impitoyablement insulter, etc. On les pend habituellement tout nus. On les donne ainsi délibérément en spectacle d'opprobre. C'est d'ailleurs à cela que Hébreux chapitre 12, verset 2 fait allusion en disant que Jésus-Christ a souffert la croix, méprisé l'ignominie. L'Écriture sainte indique donc que lors de sa crucifixion, Jésus-Christ se fait délibérément dépouiller de tous ses vêtements et de toute sa dignité. En fait, les soldats qui en ont la garde se tirent au sort ce qui lui reste de vêtements, comme ceci le précise. Il est dit après l'avoir crucifié, les soldats se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par la prophétie, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent, selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 35 et 36. Et Jésus évoque ici la prophétie du psaume 22, verset 19, qui en prédit ainsi le partage au sort des vêtements de Jésus. Et cela aussi s'inscrit dans le plan souverain de Dieu depuis déjà le début. Il se peut donc, chers amis, que les soldats aient jusqu'à 5 vêtements à se partager, les sandales, une sorte de togue, une ceinture et une tunique. Tout ce qui compose en fait l'habillement traditionnel d'un juif contemporain de Jésus. De toute évidence, il est coutumier pour le quatuor chargé de garder un crucifié de se partager équitablement ses vêtements. Or, si chacun se choisit un vêtement ou un accessoire, il en reste forcément un cinquième. Voilà donc qui explique le commentaire de saint Jean. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, c'est-à-dire d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Saint Jean chapitre 19, versets 23 et 24. La tunique au tissage fin est probablement le meilleur de tous les vêtements, donc c'est celui qu'il tire au sort. Puis, après s'être partagé ses vêtements, les soldats s'assoient pour surveiller le crucifié. Pour ajouter aux railleries, aux plaisanteries, Pilate fait mettre au-dessus de la tête de Jésus un grand écriteau sur lequel est inscrit la raison de son exécution. Tout cela pour indiquer le sujet de sa condamnation, on a écrit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Saint Matthieu chapitre 27, verset 37. Tous les auteurs des évangiles mentionnent l'écrit tôt, mais chacun en cite l'inscription légèrement différemment. Saint Jean, chapitre 19, verset 20, précise que l'inscription apparaît en grec, en latin et en hébreu, ce qui explique facilement la différence entre les citations, soit qu'ils traduisent légèrement différemment l'inscription, soit, ce qui est beaucoup plus probable, qu'ils rapportent en abrégé l'essentiel de l'inscription. Tous les auteurs s'entendent toutefois pour dire que sur l'inscription apparaît le roi des Juifs, Saint Matthieu chapitre 27, verset 37. Et notez également Saint Marc chapitre 15, verset 26, Saint Luc chapitre 23, verset 38, et Saint Jean, chapitre 19, verset 19. Par ailleurs, Saint Luc ajoute « Celui-ci est au début » et Saint Matthieu commence par « Celui-ci est Jésus ». Quant à la version de Saint Jean, elle débute par « Jésus de Nazareth ». « Celui-ci » et donc Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Jésus-Christ fait donc crucifier entre deux brigands qui se joignent eux aussi à ceux qui se moquent de lui, comme en témoigne Saint Matthieu, chapitre 27, verset 38 à 44, où il est dit: avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: « Toi, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, alors descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et ils disaient: « Oh, il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. S'il est vraiment roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Alors nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, et bien que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. » Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient également de la même manière. Saint Matthieu chapitre 27, verset 38 et 40 jusqu'à au verset 44. C'est vraiment épouvantable quand on peut voir cela en détail. Voyez-vous, l'équivalent grec du mot brigand, cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de petits voleurs, mais il s'agit de malfaiteurs qui sont sans foi ni loi, qui sèment la ruine, qui sèment la misère humaine sur leur passage. Ce sont même des complices de Barabbas. Et dans ce cas-là, il est possible que la croix à laquelle Jésus-Christ est cloué ait été destinée initialement à leur chef. Ce qui laisse presque entendre que ces brigands ont été non seulement complices de vol, mais encore par-dessus tout de terribles meurtres. Quoi qu'il en soit, voyez-vous, il compte indubitablement au nombre des malfaiteurs les plus cruels qui puisse exister, puisque ici eux-mêmes crucifiés, eux-mêmes à l'agonie, ils emploient le peu de force qu'ils ont pour se moquer de Jésus qui ne leur a pourtant jamais rien fait. En effet, ce qui en dit très long sur leur véritable caractère. Or, entre-temps, des multitudes passent par là et insultent le Sauveur en secouant la tête. Saint Matthieu chapitre 27, versets 39 et 40. Il s'agit d'ailleurs ici de l'accomplissement d'une autre prophétie que renferme le psaume 22, dans lequel David a décrit la scène de la crucifixion selon la propre perspective du Messie. Il est dit au verset 7 à 9 du psaume 22, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. » Notons que les moqueurs qui entourent la croix interprètent aussi mal les paroles que Jésus a prononcées dans Saint Jean chapitre 2 verset 19 que ne l'ont fait les faux témoins lors de sa comparution devant Caïphe. Jésus-Christ a alors déclaré « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Mais comme Saint Jean le signale, il parlait du temple de son corps, verset 21. Or les ennemis de Jésus-Christ ignorent que la prophétie est maintenant sur le point de se réaliser et insistant pour prêter une mauvaise interprétation à ses paroles, ils en font encore ici le sujet de leur moquerie. Le Sanhédrin, qui assiste également à toute la scène, contribue certainement à alimenter beaucoup les moqueries. Les chefs religieux se sont présentés au lieu de la crucifixion pour savourer leur victoire et pour assister à l'issue de leur complot meurtrier avant de rentrer à la maison pour partager leur repas pascal en arborant ainsi une attitude en quelque sorte moralisatrice. Quels hypocrites, quels fauchetons! Voyez-vous, par leur moquerie, ils tentent désespérément de se convaincre eux-mêmes, ainsi que tous ceux qui sont présents, de ce que Jésus n'est pas du tout le Messie d'Israël. Ils croient que le Messie ne peut connaître la défaite. Le fait que Jésus est là, qu'il est pendu à la croix, en train de mourir sans ne rien pouvoir faire, prouve selon eux qu'il n'est pas du tout qu'il dit être. Il se délecte ainsi de leur triomphe, il se pavane et plastronne parmi la foule des spectateurs, annonçant ainsi à tous, « Oh, il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. S'il est vraiment roi d'Israël, qu'il descende de la croix, alors nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, et bien que Dieu le délivre maintenant, si vraiment il l'aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu », c'est Matthieu 27, versets 42 et 43. Or, s'ils étaient le genre de chef spirituel qu'ils sont censés être, ils reconnaîtraient que leurs paroles correspondent exactement, littéralement, à la prophétie du psaume 22, verset 8. Il s'agit donc des souverains sacrificateurs d'Israël. Ils ont tout à voir avec la religion, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. C'est pas pareil. C'est donc eux qui sont le plus à blâmer parmi tous ceux qui participent ici à l'humiliation de Jésus. Bien qu'ils prétendent être assis dans la chair de Moïse, c'est Matthieu chapitre 23, verset 2, ils ne croient pas Moïse, Saint Jean chapitre 5, verset 46. Même s'ils se disent être les porte-paroles de Dieu, ils sont en réalité les enfants du diable. Saint Jean chapitre 8, verset 44. Comme toujours, Jésus ne rend pas la pareille à ceux qui l'injurent. Bien au contraire, les seules paroles qu'il prononce concernant ses persécuteurs, tandis qu'il est pendu à la croix, constituent une douce requête pour que Dieu se montre miséricordieux envers eux. Notez Saint Luc, chapitre 23, verset 34. Il est allé à la croix de son propre gré, en pleine connaissance de cause et en toute soumission à la volonté de Dieu le Père, afin de mourir pour les péchés des autres, pour le péché de tous ceux qui sont pécheurs. Eh bien, qu'on ne puisse pas même imaginer la profondeur de son agonie, les mauvais traitements et la torture que lui font subir les hommes ne sont rien en comparaison avec la colère que Dieu déversera contre les péchés. Amen. Chers amis, nous arrêtons ici pour aujourd'hui et j'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné de vous dire. Écoutez bien. La Bible dit dans Saint Luc chapitre 17 verset 21, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Laissez là ce misérable monde et votre âme trouvera le repos. Apprenez à mépriser les choses extérieures et à vous donner aux intérieurs et vous verrez le royaume de Dieu venir en vous. Car le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint. Cela n'est pas donné aux impies. Jésus-Christ viendra à vous et il vous remplira de ses consolations si vous lui préparez au-dedans de vous une simple demeure digne de lui. Toute sa gloire et toute sa beauté et intérieur, et c'est dans le secret du cœur qu'il se plaît. Il visite souvent l'homme intérieur et ses entretiens sont doux, ses consolations ravissantes, sa paix est inépuisable et sa familiarité incompréhensible. Âme fidèle, hâtez-vous donc de préparer votre cœur pour l'époux, afin qu'il daigne venir et qu'il habite en vous. Car il a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. Laissez donc entrer Jésus-Christ en vous, et n'y laissez entrer que lui. Lorsque vous posséderez Jésus-Christ, vous serez riche, et lui seul vous suffira. Il veillera sur vous, il prendra de vous un soin fidèle en toutes choses, de sorte que vous n'aurez plus besoin de rien attendre des hommes, car les hommes changent vite et vous manquent tout d'un coup. Mais Jésus-Christ, il demeure éternellement, inébranlable dans sa constance. Il est donc près de vous jusqu'à la fin. Ceux qui sont aujourd'hui pour vous pourront demain être contre vous. Et réciproquement, les hommes changent comme le vent. Mettez donc en Dieu seul toute votre confiance, qu'il soit votre crainte et votre amour. Il répondra pour vous, et il fera ce qui est le meilleur. Vous n'aurez point de demeure stable en quelque lieu que vous soyez. Vous êtes étranger et voyageur, et vous n'aurez jamais de repos que vous ne soyez unis intimement à Jésus-Christ. Que cherchez-vous autour de vous? Ce n'est pas ici le lieu de votre repos, pas du tout. Votre demeure doit être dans le ciel, et vous ne devez regarder toutes les choses de la terre que comme en passant. Tout passe, et vous passerez avec tout le reste. Prenez garde de vous attacher à quoi que ce soit, de peur d'en devenir l'esclave et de vous perdre. Que sans cesse votre pensée monte vers le Très-Haut et votre prière vers Jésus-Christ. Si vous ne savez pas encore vous élever aux contemplations célestes, alors reposez-vous dans la passion du Sauveur et aimez et demeurez dans ses plans sacrés. Car si vous vous réfugiez avec amour dans ses plaies et ses précieux stigmates, eh bien, vous sentirez une grande force au temps de la tribulation et vous inquiéterez peu du mépris des hommes et vous supporterez aisément les paroles médisantes. Jésus-Christ a été aussi méprisé des hommes en ce monde et dans les plus extrêmes angoisses, abandonné des siens, de ses amis, de ses proches au milieu des opprobres. Jésus-Christ a voulu souffrir et être méprisé, et vous osez vous plaindre de quelque chose? Jésus-Christ a eu des ennemis et des détracteurs, et vous ne voudriez avoir que des amis et des bienfaiteurs? Comment votre patience méritera-t-elle d'être couronné, s'il ne vous arrive rien de pénible? Celui qui aime Jésus-Christ est en vérité un homme vraiment intérieur et dégagé de toute affection déréglée et il peut librement s'approcher de Dieu, oh oui, et de s'élever en esprit au-dessus de soi-même. Il peut se reposer en lui par une jouissance anticipée. Voyez-vous, celui qui estime les choses suivant ce qu'elles sont et non d'après les discours et d'après les opinions des hommes est vraiment sage, car c'est Dieu qui l'instruit beaucoup plus que les hommes. Un homme intérieur se recueille bien vite parce qu'il ne se repent jamais tout entier au dehors. Les travaux extérieurs, les occupations nécessaires en certains temps ne le troublent point, mais il se prête aux choses selon qu'elles arrivent. Si vous étiez ce que vous devez être, entièrement libre et détaché, eh bien tout contribuerait à votre bien et à votre avancement. Mais beaucoup de choses vous déplaisent et souvent vous troublent parce que vous n'êtes pas encore tout à fait mort à vous-même et séparé des choses de la terre. Rien n'embrasse et ne souille tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetez les consolations du dehors, vous pourrez contempler les choses du ciel et goûter souvent les joies intérieures. Amen. Et chers amis, maintenant, prions ensemble. Prions. Le Christ est tout pour nous. Veux-tu guérir ta blessure? Il est le médecin. Es-tu écrasé sous le poids de tes iniquités? Jésus est celui qui justifie. As-tu besoin de secours? Jésus-Christ est la force. Crains-tu la mort? Jésus-Christ est la vie. Aspires-tu aux choses d'en haut? Jésus-Christ en est le chemin. Veux-tu fuir les ténèbres? Jésus-Christ est la lumière. As-tu une faim en toi? Jésus est la nourriture spirituelle. Allons donc à lui comme le malade au médecin. C'est un médecin qui fait vivre. Il guérira nos infirmités. Allons à lui comme celui qui est souillé à la fontaine. Jésus, c'est la fontaine des miséricordes. Il lavera nos impuretés. Allons à lui comme l'aveugle à la lumière. C'est Jésus la lumière des clartés éternelles. Elle éclairera notre cécité. Allons à lui comme le pauvre et l'indigent à leur bienfaiteur. Oui, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il enrichira notre pauvreté et il vêtira notre nudité. Gloire et louange donc à Dieu le Père, à son Fils bien-aimé Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Et chers amis, j'aimerais maintenant vous mettre quelques chants d'un très lointain passé. J'étais un jeune homme quand j'avais enregistré cela en 1954. C'est loin tout cela, car maintenant je suis très âgé. Mais souvenez-vous que le Seigneur vous aime. Il vous aime vraiment de tout son cœur, de toute sa puissance. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également, de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, oui, je vous aime, soyez bénis. Et maintenant, essayons de voir si ces chants d'un lointain passé fonctionnent encore.
Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart only for heaven, when Jesus my portion and my jumping and oh, your daddy and your ma is good looking. you're gonna run. You're gonna hide your wings, take to the sky. Nothing will hold you. They'll be standing by. Sometime I feel like a mother. Sometimes I feel like a motherless child, just alone, away from my home. Just alone, way. With daddy and mommy there.